J'aimerais commencer en félicitant les organisateurs d'avoir convié d'avoir eu le courage de faire une telle conférence avec un thème aussi simple qu'on pourrait dire du couple et de la famille. Je vous félicite. Merci aussi de tous ceux qui sont venus. Il semble que cela prouve que c'est quand même important de parler du couple et de la famille. Vivre Christ dans la famille, pourquoi et comment? Bertrand a parlé du pourquoi. Pourquoi avons-nous tous les atouts pour bien vivre la famille de couple et de famille? Et pourquoi est-ce que c'est? Eh bien, on va le voir au courant de cette réunion. C'est important que nous ne gardions pas ces choses seulement pour nous-mêmes, mais que nous puissions en faire part autour de nous aussi. Voilà. Qui aurait pensé que cette conférence tombe pile dans une situation financière précaire? Les personnes qui ont sacrifié leur couple, leur famille, sur l'autel du mammon, aujourd'hui se voient déçues, parce que les actions ont perdu, se sont évaporées. Et quelles sont les valeurs qu'il y a encore aujourd'hui, si ce ne sont pas les valeurs de la famille et du couple? Et nous, comme chrétiens, comme nous l'avons entendu, Satan est acharné de faire descendre, de détruire les familles chrétiennes. Mais nous, on va se rappeler, comme Bertrand l'a dit, plus fort est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Mais ce n'est pas une formule magique, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Eh bien, notre sujet, le couple, le cœur de la famille. Vous voyez, ça devrait représenter un cœur et des parents joyeux et des enfants joyeux là-haut. Notre cœur, c'est le centre moral et physique de tout notre être, sa fonction unique, produisant énergie, impulsion, la chaleur, le rythme, l'affection, la joie, mais aussi la douleur, la déception, l'amertume. Tant que le cœur va bien, on pourrait dire tout va bien, presque. Car s'il est divisé, s'il est malade, s'il est endurci, l'ensemble en souffre, l'individu, le couple, la famille et la société. Il y a un article dans un journal hebdomadaire dans Suisse allemande, on a lu dernièrement, pour sauver la race suisse. Et c'est les petits Suisses, là, qui sont en dehors d'Europe, n'est-ce pas? Vous comprenez de ce que je parle. Il faut l'accroissement de familles avec minimum 3 enfants vivant d'après des principes d'une éthique biblique ou chrétienne. C'est un journal séculier, laïque, qui a écrit cela. Et je crois que c'est un reporter qui a réalisé ce qui se passe. Oui, quand on veut illustrer de la joie, souvent on montre justement une famille heureuse, avec 2 enfants, parce que aujourd'hui les voitures, 3 enfants c'est déjà trop, etc. Mais en tout cas, des parents heureux et des enfants heureux. C'est ça le bien-être. Mais la pratique c'est quoi? La réalité. À peu près 50% de divorces, nous le savons, et la moitié d'enfants nés dans des familles monoparentales. À peu près la moitié. Vous rendez compte ce que c'est? Où sont les pères de nos jours, et aussi les mères, et les couples unis? Et toujours trop de législation en défaveur de personnes mariées et de la famille. Ces politiciens, Monsieur Sarkozy, je m'excuse, mais est-ce que vous réalisez pas où nous allons? Comment sauver le couple et la famille? Par de nouvelles idées? Par des formules post-modernes? La réalisation de soi, eh bien Dieu, dans sa parole, communique tout ce qui est nécessaire et salutaire. mais il faut recreuser les bases. Et nous, c'est une conférence sur le couple et la famille, mais il y a ici des célibataires, des personnes qui vivent seules, et j'aimerais tout simplement vous encourager de vous rappeler ce que Bertrand a dit, que nous appartenons à la famille de Dieu. Le monde ne connaît pas ça, mais nous avons tous une famille individuelle, une famille élargie est aussi la famille de Dieu. Et tout ce que nous allons dire ici peut aussi être appliqué à cela. Et peut-être quand vous êtes rentré à la maison, vous pourrez lire le début d'Ésaïe 54, parce que cela montre la conséquence d'Ésaïe 53, l'œuvre du Seigneur Jésus, et voilà, celle qui n'a pas enfanté a plus d'enfants que celle qui a une famille à elle. C'est un verset que j'aime bien citer quand il y a des amis qui ne sont pas mariés ou seuls pour le moment. Eh bien, le couple, cœur de la famille, nous avons pensé citer un verset ici, « Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est Proverbe 4, verset 23. C'est central. Le Toubib dira « Le cœur, c'est central. » Mais Dieu dit aussi « Le cœur, c'est central. » Et nous aimerions montrer comment le couple, c'est le cœur de la famille. Si le couple marche bien, eh bien, la famille marchera, je pense, mieux que si le couple a des problèmes. Nous avons pensé nous servir d'une image, on voit tout juste, je pense, c'est un triangle. Un triangle, et c'est une image, hein, oui, on voit, c'est un peu fin, mais vous allez voir, on fait le développement du triangle. On pensait que c'est tout simplement des briques de construction pour la famille. Et là, on aimerait citer le verset « La corde à trois fils présentée salutaire pour des cas de crise » d'après Ecclésiaste chapitre 4 pour ceux qui sont en danger de tomber ou d'avoir froid étant couchés ou d'être attaqués. Il y a ces deux sont mieux qu'un. Et là aussi, si vous n'êtes pas marié, il y a peut-être un frère et une sœur dans votre entourage où vous pouvez former un lien d'amitié. Deux sont toujours mieux qu'un. On va voir l'importance de cela. Eh bien, pour nous, ceux qui sont mariés, ce sera cette corde à trois brins. Et vous allez voir, on va faire un petit développement, un développement du triangle. Notre Dieu est un Dieu de relation. C'est la première brique qu'il faut poser. C'est très fondamental. Eh bien, nous savons, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous lisons dans la Bible, au commencement, Dieu Elohim, c'est le pluriel créa, verbe au singulier. Voilà. Le Dieu chrétien, c'est un Dieu au pluriel. C'est un Dieu de relation, Père, Fils et Saint-Esprit. Et la relation est la base de la vie commune. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais là, ce n'est pas seulement l'homme masculin. S'il y a un mari qui dit à sa femme, tu vois ce qui est écrit ici, moi je suis fait à l'image de Dieu. J'espère que la femme connaîtra mieux sa Bible et qui lira un peu plus loin, homme et femme, il les créa à l'image de Dieu. Un individu ne peut pas représenter un Dieu de communion, un Dieu en trois personnes. Il faut au moins deux personnes. Et c'est là la beauté, je trouve, de ces déclarations. Et que nous nous rappelions que Dieu est un Dieu de relation. Et voilà, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, était bon. Cela était très bon. Et il les bénit. Il bénit ce premier couple. Et c'est extraordinaire de penser qu'après des milliers d'années, nous pouvons encore invoquer la bénédiction de Dieu sur les personnes qui se marient, comme c'était le cas sur la première page de la Bible. Mais alors, le péché est intervenu, nous le savons. Un cri de désespoir de Dieu qui vient dans le jardin. Où es-tu? Adam et Ève s'étaient éloignés de Dieu. Et ça a commencé l'histoire de douleur de milliers d'années. Où es-tu? Et finalement, quand les choses ont tellement dégringolé, on dit en Suisse, eh bien, après, dans les jours de Noé, et il fut affligé en son cœur. C'est terrible. Le Dieu qui avait fait les hommes pour avoir des êtres avec qui ils pouvaient communiquer, avoir communion, eh bien, tout semblait gâché. Et Isaïe dit au chapitre 6, verset 8, « Qui ira pour nous ?» C'est comme les trois personnes de la Déité qui disent « Mais il faut faire quelque chose, on a attendu et on a essayé des choses pendant des milliers d'années, et maintenant, qui ira pour nous ?» Nous savons la réponse. Le Fils de Dieu est venu. Et est-ce que ça vous a jamais frappé dans la Bible? Jésus, il était un charpentier, un bâtisseur de maisons. Il était cela à peu près 6 fois plus longtemps qu'il est parti pour annoncer la bonne nouvelle du cœur du Père. 18 ans à peu près, constructeur de maisons, envers 3 ans qu'il était dans son ministère public. Mais pourquoi? Il voulait montrer que de construire ces structures où la relation peut être vécue est très important dans les yeux de Dieu. Et il est même dit en Jean 1,14, n'est-ce pas, la parole devient chair et habita en parmi nous. C'est aussi cette pensée d'habitation. Et le Seigneur Jésus, quand il a parlé de gens qui ne faisaient qu'écouter et de pas mettre en pratique, il cite, lui, comme constructeur de maison, quelqu'un qui a bâti sa maison sans fondement. Et vous rendez compte combien il a dû être angoissé de devoir raconter que quand la tempête est venue, cette structure s'est effondrée. C'est terrible. Eh bien, ne soyons pas seulement ceux qui entendent, mais qui mettons en pratique. Et en partant, Jean 14, je vais préparer des places. Le constructeur de maison est au ciel, il prépare des places pour nous. N'est-ce pas merveilleux? La maison, le foyer, le lieu où cette relation peut être vécue. Eh bien, rien de matériel peut remplacer de bonnes relations. Les personnes qui sont très riches, ils s'achètent une Porsche, ou bien ils s'achètent un voilier dans la Côte d'Azur, ou bien ils font de longs voyages. Tout en cherchant quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils cherchent réellement? Nous sommes des êtres de relation. Ils cherchent la relation, mais ils cherchent là où ils ne trouveront pas cette satisfaction. Eh bien, nous allons voir aussi que seulement ce que nous investissons dans des personnes, nous pouvons une fois l'emmener au ciel. Tous ces millions que de certaines personnes avaient et qui sont peut-être évaporés entre temps, je ne sais pas, ils devront les laisser de toute façon. Mais ce que nous avons investi dans des personnes, on peut l'emmener au ciel. Et surtout si le Seigneur nous a donné des enfants à nous, combien investissons-nous dans nos propres enfants, dans nos petits-enfants? Je dois vous dire, avec chagrin, que plus d'un de nos enfants nous ont fait le reproche. Quand vous étiez là dans votre travail missionnaire, vous aviez le temps pour tout le monde. Mais nous, vous n'aviez pas ce regard particulier sur nous. Tu es mon enfant, comment vas-tu? Etc. Heureusement qu'on a pu remettre les choses en ordre. Heureusement que nos enfants nous ont pardonné. Et ils aiment tous le Seigneur. C'est un grand présent, un cadeau de la grâce de Dieu. La relation, la première brique. La seconde brique, être humain créé à son image. Comment sommes-nous? Eh bien, nous avons été créés esprit, âme et corps. Chacun de ces aspects a des besoins. Les besoins spirituels, les besoins émotionnels et les besoins physiques. Mais des fois, on peut aussi comparer ce triangle à un tabouret. Un tabouret à 3 jambes, il tient toujours, n'est-ce pas? Mais il faut que les jambes aient la même longueur. Mais il semble qu'il y a des tabourets qui sont un peu penchés, parce qu'il y a la soi-disant hyper-spiritualité. Ah, mais ça c'est spirituel, n'est-ce pas? Eh bien, il faut mettre beaucoup d'emphase sur cela, n'est-ce pas? Et alors le corporel aussi, n'est-ce pas? On aime la grande bagnole, on aime bien manger, etc. Il faut bien s'occuper de notre corps, etc. Et l'émotionnel, c'est où? On ne parle pas souvent des émotions dans nos cercles. Eh bien, c'est comme quelque chose qui est un peu dénigré. Eh bien, c'est un tabouret qui est ainsi. Les émotions sont au milieu entre esprit, âme et corps. Et si nos émotions souffrent, eh bien, tout le corps, tout l'être va souffrir. Comment satisfaire chacun de ses besoins? comment satisfaire mes besoins spirituels? Naturellement, tout d'abord, c'est en ayant une relation réelle avec Dieu. Et aussi, oui, en couple, en échangeant ces choses dont nous avons joui. Comment satisfaire les besoins émotionnels? Dieu a fait de belles choses. Vous savez, des fois, on a des conférences comme celle-ci, on parle de sujets hautement spirituels, mais des fois, ce serait bien d'aller au jardin, au zoologique ensemble, pour un peu admirer la beauté de Dieu dans ses animaux. Il les a fait tellement beaux, est-ce qu'on prend le temps d'admirer cela? C'est une proposition, n'est-ce pas? Qui sait si un jour ça va se faire? Écouter de la belle musique. La belle musique a été inventée par Dieu, n'est-ce pas? Jouir de belles choses ensemble. Oui, c'est des besoins émotionnels. Et alors, les besoins physiques, on les connaît. Il faut la propreté, le bon boucifaille, on dit, etc. Et il ne faut pas sous-estimer aussi, excusez, c'est un peu le français fédéral, en Suisse on parle un peu différemment, mais merci de ce que vous me suivez. Il ne faut pas sous-estimer l'ordre. C'est d'abord l'esprit, après l'âme, après le corps. Vous voyez, la référence est en 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Je vais le lire, parce que là c'est la preuve que cet ordre est donné dans la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5. Verset 23. Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle qui aussi le fera. Tout d'abord le spirituel. Le spirituel, c'est notre capacité d'entrer en contact avec Dieu. Après l'émotionnel, qui est le centre. Dans nos Bibles, qu'est-ce qui est au milieu? C'est les psaumes. Ça parle aux émotions et des émotions, n'est-ce pas? Et alors, le corps aussi. Et tout dépend l'un de l'autre. J'ai parlé à un jeune homme, il y a bien des années, qui était tombé, moralement, malheureusement. Et, oui, il s'entretenait assez librement avec des jeunes filles. Et j'ai un peu cherché à lui parler de cela. Il a dit, ah, mais penses-tu maintenant? Je suis tellement spirituel. Mais ça peut plus m'arriver, ça. Et pas longtemps après, il s'est de nouveau cassé la figure en couchant avec une jeune fille. Il ne faut pas penser, quand on est très spirituel, que les choses peuvent être négligées. Non, tout cela, c'est un enjeu ensemble. Oui, il faut investir dans chacun de ces trois domaines d'après les priorités qu'on s'est proposées. Souvent, on parle des priorités et de l'investissement dans nos séminaires. Et c'est bien d'avoir de bonnes priorités, mais les investissements doivent suivre. Sans cela, cela ne vaut rien du tout. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Ça va un peu dans la ligne de ce que Bertrand a dit. Je ne vais pas m'approfondir, sans doute vous savez ce qui est entendu là. Et ce qui m'a frappé, c'est les conséquences de cela. C'est quelques versets après, je vais le lire. Éphésiens chapitre 5. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À Dieu, le Père, étant soumis les uns les autres dans la crainte de Christ. Étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et c'est un verset clé pour un couple de bien marcher. Eda, elle est ma sœur en Christ. Je veux la respecter comme telle. Naturellement, en ce qui concerne position, je suis le chef de la famille. C'est pas moi qui ai décidé, c'est Dieu qui a voulu les choses ainsi. Mais il faut le respect envers ma femme. Étant soumis les uns les autres dans la crainte du Seigneur. S'approcher l'un de l'autre, les différences masculines et féminines. Nous, les mecs, on regarde l'extérieur. Hein? La belle forme, etc., ça nous attire. Les dames, c'est bien plus les valeurs intérieures, n'est-ce pas, qui les attirent. Alors, quand on veut s'approcher l'un de l'autre dans le mariage, il faut faire attention un peu de savoir quels sont les besoins de mon conjoint, de ma femme, pour que les choses aillent bien. Je ne veux pas aller dans plus de détails. La troisième des briques, c'est le plan de Dieu avec les êtres humains. Eh bien là, nous avons Dieu, homme et femme. Et je trouve ça très beau comme illustration. Nous allons voir pourquoi. Par l'union, l'image de Dieu, justement, homme et femme qui se lient ensemble, ils peuvent être l'image de Dieu, comme nous l'avons mentionné déjà, et nous sommes aussi une image de Christ et de son Église. Et il ne faut pas oublier cela. S'il y a tellement de mariages qui vont de mal en pis, je suis sûr que c'est d'oublier cette vérité merveilleuse qui nous est enseignée en Éphésiens chapitre 5, nous le connaissons. L'identité unique voulue avec le besoin de respecter hommes et femmes. Nous sommes différents, n'est-ce pas? Heureusement que nous sommes différents, et Bertrand en a déjà parlé, n'est-ce pas? Ces différences, elles peuvent faire qu'on veuille se changer l'un l'autre, et on a essayé ça pendant quelques années, et ça n'a porté à rien, ou bien alors qu'on réalise l'importance, mais aussi les caractères spécifiques, l'un est plutôt extroverti, l'autre plutôt introverti, et tout cela, Dieu l'a voulu, Dieu nous a menés ensemble, et ainsi, si vraiment Dieu est au-dessus de tout, eh bien ces différences vont enrichir notre mariage. Et tout cela en sauvegardant notre identité et ne pas perdre de vue notre complémentarité. Chacun est un individu. Nous sommes un dans le Seigneur, mais Ada, elle est une personne et je dois respecter cela. Souvent je dis, elle est émancipée d'une manière très positive. Parce que des fois, elle va faire une petite promenade sans moi. Et tant que je sais qu'elle rentre nouveau, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Voilà. L'importance de chacun d'avoir une relation vivante avec Dieu. Et cela, je crois que c'est quelque chose vraiment de central. Chacun et sa relation avec Dieu. Soit l'homme, soit la femme. Et peut-être que vous avez déjà entendu cette illustration, et il me semble que c'est très simple, mais très impressionnant. De plus, nous nous rapprochons du haut de ce triangle, le moins long est la distance entre l'un et l'autre, n'est-ce pas? Eh bien, que le Seigneur nous aide de nous approcher de Dieu, et on va réaliser qu'on s'approche l'un de l'autre. Et s'il y a des problèmes dans un couple, souvent, il faut dire tout d'abord, c'est un problème spirituel. Parce que il y a plus de distance avec Dieu, notre vie spirituelle commence un peu à dégringoler, et voilà que la distance entre les conjoints devient aussi toujours plus grande. Et c'est tragique de voir ces développements. Voilà, s'approcher de Dieu, c'est s'approcher l'un de l'autre. Et là, il faut la communion, la communication verticale et horizontale. N'est-ce pas? Nous qui connaissons Dieu, c'est un triangle. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, le spirituel n'est pas développé, c'est tout simplement sur un plan. L'homme là, la femme là. Et souvent, il y a un trait, et ce trait devient comme un minus. Mais nous avons cette dimension additionnelle qui est tellement importante. Et que chacun de nous investisse vraiment dans cette relation avec le Seigneur. Et alors, en communiquant avec le Seigneur, on communiquera les uns les avec les autres. En ayant cette communion réelle, Jésus étant précieux pour nous, eh bien, cette communion entre hommes et femmes sera aussi plus forte. Au début de notre mariage, on était tellement amoureux, on l'est toujours un peu, mais au début c'était encore un peu plus. On avait des phases où on se disait, on est en danger que tu prennes la place du Seigneur dans ma vie. Et ça aurait mal tourné. Alors il fallait se reprendre et dire, eh bien, je t'aime beaucoup, mais ensemble, on veut vraiment aimer le Seigneur avant tout. Et c'est de s'approcher du Seigneur et de s'approcher l'un de l'autre. Voilà ma prochaine brique. Comment arriver à maintenir à cette union? Et c'est un verset qui vient 4 fois dans la Bible. Vous le connaissez bien, En Genèse 2, 24, et une fois dans les, deux fois dans les évangiles et une fois dans les épîtres, quitter père et mère et s'attacher à son conjoint et devenir une seule chair. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, c'est un ordre divin qui est très, très important. Le détachement, on pourrait dire, c'est l'adolescent. Nous avons eu 4 enfants, le Seigneur nous a confié 4 enfants, on a beaucoup joui d'eux quand ils étaient petits, et tout à coup, ils ont un peu changé d'attitude. Ils sont devenus un peu indépendants. Et oui, ça ne nous a pas tellement plu, jusqu'à ce qu'on a réalisé que c'est ce détachement qui doit se faire. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, n'est-ce pas? Nous n'avons qu'une fille. Et quand le jeune homme est venu, Pierre-Claude Fabergé, il est venu, et il a pris notre fille, on a dit, mais ça va pas ça, nous n'avons qu'une fille, mais tu vas pas nous prendre cette fille. Mais si elle n'était pas partie avec quelqu'un de dehors, s'il n'y avait pas eu ce détachement, elle serait toujours chez nous avec 40 ans, et ce serait pas vraiment idéal. Vous voyez, ce détachement, c'est quelque chose qui va contre la nature, on pourrait dire, mais qui est impératif pour qu'il y ait de nouvelles cellules qui soient formées. Et ce détachement, je crois que l'adolescence, dans la vie d'une jeune personne, c'est en partie ce détachement. Et c'est tellement important que nous réagissions bien comme parents. Je me rappelle, nous étions avec des amis et un père avec 3 filles dans l'adolescence, et la plus grande, elle faisait une crise terrible d'adolescence. Et j'ai osé demander au père, mais est-ce que tu as une fois, tu t'es un peu informé ce que c'est l'adolescence? Il a dit, oh, moi j'en ai jamais eu, eh bien, ça m'intéresse pas. Hélas, il n'a pas réalisé. Et quelqu'un a dit une fois, tout le monde entre dans l'adolescence, mais pas tous en sortent. Et ça, c'est solennel. Est-ce que nous avons terminé notre adolescence? Terminer l'adolescence, ça veut dire, à 20, 25 ans, regarder en arrière et on peut faire le bilan. Prendre une feuille de papier et lister les choses positives qu'on a vécues et les choses négatives. Les choses positives, pourquoi pas aller féliciter nos parents, que ça a bien marché comme ça. Pour les parents, c'est agréable quand nos enfants disent, voilà, ça, vous avez bien fait. Mais les choses négatives, il faut les traiter. Et pour cela, le pardon est tellement important dont Bertrand a parlé. Et si on peut en parler aux parents, autant mieux. On peut regagner la communication, la communion. Et si les parents ne veulent rien en savoir, c'est quand même important, peut-être dans la relation d'aide, de parler de ces choses et de vraiment les enterrer. Et alors, on est une personne libre qui peut assumer la vie. Que le Seigneur nous aide, qu'il y ait des détachements harmonieux qui se font et que dès l'adolescence, les personnes en sortent. Et s'il y a quelqu'un qui a l'impression qu'il n'a jamais terminé son adolescence, je trouve c'est merveilleux. Le Dieu dont nous parlons, il a toujours en vue de nous aider, même quand les situations ont été loin, mais le Seigneur aimerait nous aider à résoudre ces problèmes. Voilà, le second, c'est le temps d'apprendre à se connaître les fiançailles. S'attacher l'un à l'autre, c'est graduel. Mais c'est tellement important. Quand notre fille s'est fiancée, elle faisait des études d'hygiéniste dentaire, et ses collègues, ses camarades ont entendu qu'elle était amoureuse. Elle a dit, je vais me fiancer. Ils ont dit, pourquoi fiancer? Mais c'est vieux jeu, ça. Oui. Eh bien, que le Seigneur aide que nos jeunes aient le courage de suivre ce chemin que la parole de Dieu nous présente. Les fiançailles, on apprend à se connaître. Et on ne va pas encore coucher ensemble. Parce que si on fait cela, on évite de parler de certaines choses tout en jouissant de choses qui sont vraiment pour le mariage. Et ça ne résout pas les problèmes, ça crée des problèmes. Oui, que le Seigneur nous aide, notre génération, d'encourager les jeunes, d'avoir des fiançailles. Nous faisons du travail de préparation de mariage qui est très important. Et malheureusement, pendant des décennies, on a sous-estimé cela. Mais que les jeunes, dans les fiançailles, fassent vraiment toutes ces démarches qui leur aideront que quand le jour sera venu, eh bien, l'union complète et définitive, alors ce cadeau de l'union sexuelle
c'est un cadeau divin pour le mariage, qui sera joui d'une manière particulière. Oui, l'importance de respecter l'ordre proposé. De nos jours, tellement de jeunes, ils regardent à gauche et à droite, ils voient une personne de l'autre sexe, et alors on va déjà coucher ensemble. Et voilà déjà les choses qui commencent à tourner dans la mauvaise direction. Il y a toujours la possibilité de se repentir, de s'arrêter, mais quand les choses sont mal parties, c'est toujours difficile. Et il faut aussi maintenir cela dans la durée. Quitter père et mère, c'est important que le jeune couple aille habiter, si c'est possible, au moins quelques centaines de mètres loin de la maison des parents, n'est-ce pas? Et que le jeune homme ne dise pas, tu sais, hein, ma mère, elle savait mieux cuire que toi, je sais pas quoi, c'est des choses qu'on fait pas. Il faut ce détachement. Et alors, quand il y a les enfants qui arrivent, tout à coup, la grand-mère, oh, mais j'ai des petits-enfants, par la porte derrière, elle commence nous voir s'infiltrer. Et ce qui était un détachement, tout à coup, est embrouillé. Alors, à cause de cela, nous disons, maintenir ces choses. S'attacher l'un à l'autre, c'est aussi pour toute la vie, n'est-ce pas? Je veux être attaché à Eda. Elle est prête de prendre cette place que Dieu lui a donnée dans notre mariage, mais il faut que je sois attaché à elle. Et ainsi, c'est un acte de volonté qu'il faut toujours nouveau confirmer. Et alors, devenir une seule chair, c'est un cadeau de Dieu, en contraste avec les animaux qui ne sont ensemble que pour la procréation. C'est un don de Dieu de jouissance dans le couple qui peut durer pendant bien longtemps. Voilà, encore une brique. L'amour selon les plans de Dieu est, vous voyez, ça s'allonge. Les pieds s'allongent, je ne sais pas si vous le voyez parce que l'écran est un peu... Eh bien, tout à coup, c'est le triangle qui devient un A. Et c'est l'amour. Et nous savons que l'amour, c'est le mot clé pour le mariage. Et là, de là, il y a des enfants qui naissent. Par l'acte sexuel, il y a la possibilité de procréation d'adorateurs potentiels. Et le Seigneur Jésus a dit, le Père cherche des adorateurs. Pourquoi est-ce que Satan s'acharne tellement à la sexualité? Déjà, dans les hôtels des païens, il y a des milliers d'années, il y avait de la prostitution. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas, justement, qu'il y ait des enfants qui soient nés dans l'harmonie d'un foyer. Et l'amour, nous savons, c'est agapé, c'est l'amour que, par décision, disons voir, Dieu nous aime, non pas parce que nous sommes bien bons, mais il nous aime parce qu'il est amour. Et ainsi, nous n'étions pas tellement amoureux avec Eda au début, mais c'est venu de plus en plus. Et il fallait cet agapé au début, vraiment, d'avoir dire oui l'un à l'autre, cette acceptation inconditionnelle et le pardon aussi. Alors il y a philéo, l'amour amitié, et plus on fait les choses ensemble, plus cette amitié devient profonde. Et c'est tellement important. Si on me demandait quelle est la personne avec laquelle tu as la plus grande amitié, c'est pas Bertrand, quoi qu'on ait de bons amis, n'est-ce pas? Non, mais c'est Eda. C'est la personne avec laquelle j'ai le plus grande amitié. Et j'aimerais le soigner. Les amitiés, c'est comme les relations. Il faut les soigner, n'est-ce pas? Et alors, Eros, c'est cet amour sexuel, le joyau spécial pour le mariage donné par Dieu. Et ne nous leurrons pas. C'est Dieu qui a inventé l'union sexuelle. C'est pas le monde qui fait des milliards par année en abusant de fausses pratiques sexuelles. C'est notre Dieu qui l'a inventé. Et comme il fait aussi que tout l'univers continue à être en ordre, il veut aussi que cet acte, cette jouissance puisse continuer si elle est bien vécue dans la dépendance de Dieu. Et là, j'ai mis quelque chose de choquant. La peine de mort, pour ceux qui tuaient quelque chose, on comprenait. Mais la peine de mort pour l'adultère. Et Lévitique et Deutéronome montrent ça très clairement, car Dieu veut à tout prix éviter que des enfants naissent hors de la sécurité d'un foyer. Et là, encore une fois, on voit Jésus qui a construit des foyers. Il faut que des enfants qui soient nés soit là-dedans, et l'adultère apporte du désordre, et Dieu ne veut pas du tout cela. Oui, responsabilité d'élever nos enfants en esprit, âme et corps. Quels sont les besoins spirituels de nos enfants? Est-ce que nous prenons le temps d'avoir des moments d'échange spirituel avec nos enfants? C'est pas facile. Et Satan sait le bien qui va en sortir, et il cherche à tout moyen de faire éviter cela. Mais là, il faut vraiment décider, et il faut, oui, le faire avec cet amour et avec cette compréhension aussi. Ce n'est pas le moment de chercher à impressionner nos enfants par ma hyperspiritualité. Non, pas du tout. C'est chercher le niveau de compréhension de nos enfants, et quand nous avons différents enfants, c'est pas toujours facile, les plus grands et les tout petits, de pouvoir faire une lecture qui correspond aux besoins de tous, c'est pas facile. Mais c'est tellement important, n'est-ce pas? Les besoins émotionnels de nos enfants, ils font de la musique, on leur montre les belles choses, et oui, on jouit des choses, on a des entretiens, on renforce cette relation qu'on a avec eux, les besoins émotionnels. Et alors les besoins corporels, je pense qu'il ne faut pas en dire grand-chose, on sait bien ce que c'est. Nos actes parlent plus que nos enseignements. Ça, c'est vraiment quelque chose de solennel. Quelqu'un a une fois dit à un pasteur, « Pasteur, vos actes parlent tellement fort que je ne comprends pas du tout ce que vous dites. » C'est solennel, n'est-ce pas? Les actes. Les enfants, ils nous guettent à chaque instant. Et c'est ça un des défis d'élever des enfants. À ton travail, tu es là pendant quelques heures par jour, tu peux nouveau rentrer, mais nos enfants, ils nous guettent à tout instant, à toute circonstance. Et d'avoir une façon qui plaît à Dieu envers nos enfants, qui est bon pour les enfants, c'est un défi. Mais le Seigneur nous aide. Le Seigneur est de notre côté. Les responsabilités des aînés envers les jeunes. Le dernier verset de l'Ancien Testament, c'est très intéressant, c'est que je vais envoyer Élie pour qu'il rendra les cœurs, pour que je ne cite pas faux, c'est un verset tellement important, le dernier verset de l'Ancien Testament, et il fera retourner le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays avec malédiction. À qui l'initiative? Oh, ces jeunes, mais regarde voir, ils comprennent rien, etc., etc. C'est ça? Non. C'est l'initiative des parents. Mais les jeunes, ils vont pas nous écouter. Mais oui, ils aimeraient bien nous écouter. Mais souvent, nous sommes plutôt en train de nourrir les girafes en passant des communications très haut et les brebis n'ont rien à manger, n'est-ce pas? Non, c'est important que nous communiquions de façon que nos enfants comprennent, que nos enfants nous aiment. Et nous faisons un peu le travail parmi la jeunesse. C'est impressionnant de voir l'ouverture de la jeunesse envers des vieux comme nous. Oui, si nous prenons cette initiative et si nous réalisons l'importance de cela, eh bien alors les cœurs des jeunes se tourneront aussi vers les parents. La bénédiction quand la foi authentique passer de génération en génération. Vous connaissez peut-être le psaume 78, comme on dit en Suisse, mais je vais lire 145, parce que là, dans verset très court, cela nous est montré. Au psaume 78, là, il y a tout simplement les quatre générations qui sont mentionnées. Les choses que nous avons entendues, nous allons les passer à la prochaine génération, afin qu'eux aussi les passent à la prochaine génération. Et une version un peu plus condensée, c'est psaume 145, versets 4 à 6. Une génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre génération, et elles raconteront tes actes puissants. Je parlerai de la magnificence glorieuse de ta majesté et de tes actes merveilleux, et ils diront la force de tes actes terribles, et moi, je déclarerai tes grands faits. Vous voyez, c'est une génération qui en parle à la prochaine génération. Est-ce que la jeune génération voit de l'enthousiasme pour Jésus en nous, comme Bertrand l'a montré? Ou bien est-ce que la religion, c'est quelque chose qu'on doit faire parce que le grand-père le père le faisait, on le fait toujours. Est-ce que nous sommes dans les écoles de perroquets où chaque génération parle à une autre génération, mais il ne faut surtout pas poser des questions? Non, les jeunes aimeraient bien savoir et que le Seigneur nous aide, que nous puissions avoir cet enthousiasme pour Jésus qui fait envie à la prochaine génération. Voilà, encore une prochaine brique. L'extension de l'amour chrétien. Voyez, il y a des deux pieds, et voilà, j'ai mis une flèche horizontale. Dieu aimerait que nous soyons heureux comme individus qui le connaissent, comme couple et aussi comme famille, mais il faut aussi penser à ceux qui sont autour de nous. Matthieu 5, versets 13 et 14 dit très simplement, vous êtes la sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes! Pas vous devriez être ou vous deviendrez. Non, vous êtes. Les gens nous observent. Eh bien, les effets bénis d'un foyer harmonieux. Déjà, est-ce que vos enfants aiment rentrer à la maison? Il me semble que j'ai lu du pasteur Wilhelm Busch, qui était un homme remarquable en Allemagne. Il racontait que quand il quittait l'école, il courait à la maison parce que l'atmosphère à la maison était tellement bonne, tellement chouette. Est-ce que vos enfants courent à la maison parce que le foyer est une place de telle joie, ou bien est-ce qu'ils traînent, ils traînent, ils traînent? Eh bien, que le Seigneur aide que nos foyers, tout d'abord pour nos enfants, soient des places de bénédiction. C'est pour l'entourage, la famille élargie. Quelles sont les relations avec notre famille élargie? Est-ce que nous sommes en bénédiction, ou bien est-ce que non, on ne se parle pas et on a des problèmes et des difficultés? Le voisinage. Il y a des chrétiens qui sont en mauvais termes avec chaque voisin. Alors ils disent que c'est l'opprobre du Christ. Non, je ne pense pas que c'est ça. Je pense que c'est une vie de famille mal vécue et que le Seigneur nous aide, que ça passe. Il faut atteindre les gens. Nous sommes celle et lumière. Il faut avoir cette approche positive. L'Église. L'Église ne peut pas être à un niveau supérieur que les familles qui la composent. Et c'est à cause de cela que je suis tellement heureux que nous ayons une telle conférence. La société en général, comme nous l'avons lu, un reporter dit « des familles chrétiennes pour garder notre race ». Et sans cela, où allons-nous? Eh bien, je vais vite terminer. Chers enfants, gardez-vous des idoles. C'est ce que l'apôtre Jean écrit à la fin de sa première épître. Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ces trois domaines accordés par Dieu, le bien-être corporel, la possession, l'autorité déléguée, c'est donné par Dieu pour être joui ou usé. Moi, j'ai employé le mot usé et pas abusé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais que nous vivions ces choses d'une manière positive. Voilà, faisons le point. Dieu est un Dieu de relations. Je vais tout simplement revenir sur trois de ces briques dont nous avons parlé. Rappelons-nous que cette relation, c'est capital pour la santé mentale d'un être humain. Larry Crabb, je ne sais pas si vous avez lu de ses livres, c'est un psychiatre chrétien très reconnu. Eh bien, il a eu un grand problème avec un de ses fils qui a été vidé de l'université, et le père voulait aller et lui parler comme psychiatre. Alors il a dit non, il faut que je me mette d'abord dans la présence de mon Père Céleste et que j'écoute ce que mon Père Céleste veut me dire. Et il est allé rejoindre son fils comme père, et il a pu gagner son fils. Et Larry Crabb, il a été tellement impressionné par cela qu'il a écrit un livre, Connecting, se connecter les uns les autres. Oui. En contraste de cela, il semble que le fils Depardieu est décédé, et il semble qu'il y avait une relation de haine entre père et fils. C'est fini, il n'y a plus rien à changer. Que c'est fatal, n'est-ce pas? Eh bien, vivons ces relations. Construisons des relations, investissons dans nos relations et que nous soyons des personnes qui sont connues par cela. Les êtres humains créés à son image, eh bien, que nos tabourets ne soient pas en biais esprit, âme et corps. Il y a naturellement dans des couples des femmes qui disent, je connais un cas malheureusement qui nous est très près, je n'ai plus de sentiments pour mon mari. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à réchauffer les sentiments? Non, c'est une chose de l'esprit. Dieu nous a donné l'esprit libre de faire un choix pour un conjoint. Eh bien, là, il faut refaire ce oui. Il faut vraiment affirmer, tu es le don que Dieu m'a donné, eh bien, je veux réaffirmer cela, et alors les sentiments vont venir. Vous voyez là, même, l'ordre est tellement important. Si, sur le domaine spirituel, ça va bien, eh bien, l'émotionnel et le corporel va aussi suivre. Et, finalement, l'amour selon les plans de Dieu, oui, sommes-nous des foyers qui font envie? Il y avait un très cher frère en Suisse, frère Guignard, qui disait, ou bien on fait pitié, ou bien on fait envie. Hein, c'est simple, mais c'est comme ça. Est-ce que nos foyers font envie? Est-ce que l'amour est vécu? Et des fois on dit, mais cet amour, la batterie est un peu plate. Mais il faut revenir à Dieu. En Romains chapitre 5, verset 5, il est dit, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il faut toujours de nouveau aller vers la source. Et la source n'est jamais bouchée, que nous nous laissions remplir de l'amour divin jour par jour. Et alors nous pourrons aussi passer cet amour à d'autres personnes. Voilà. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande. Toi, c'est quoi? C'est très simple. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée chapitre 6, verset 8. Ce n'est pas des grandes formules, ce n'est pas des choses nouvelles, c'est retourner à la parole de Dieu et chercher avec l'aide du Seigneur. Et comme nous avons entendu par Bertrand, Christ qui est en nous, il va nous aider à vivre de cette manière que lui aimerait vraiment qu'elle soit vécue. Et que nous ayons des couples qui fonctionnent bien, que nous ayons des enfants qui aiment rentrer chez nous, et où il y a une relation riche, et que notre influence dans l'Église soit une influence positive. Je vous remercie.